Vous êtes sur RTL. Sur RTL.
Romain est donc médecin et Romain habite Paris et il voulait s'exprimer le premier sur les masques qui ne sont plus obligatoires à l'extérieur. Romain.
Oui, bonsoir.
Oui.
Bah écoutez, oui, en effet, c'est une bonne chose. On va pouvoir profiter de la plage et des balades sans masque. C'est une bonne chose. Et c'est à l'heure actuelle et dans les conditions épidémiques actuelles, c'est possible parce que le taux d'incidence est extrêmement bas et qu'on sait que la contamination en extérieur, si elle a pu exister à un moment donné, elle est extrêmement faible. Et là, dans les conditions actuelles, non, il n'y a pas de contamination en extérieur.
Vous êtes donc, généraliste, pas de masque, Romain ?
Voilà, mais généraliste avec une... plutôt une activité gériatrique également. Donc je suis beaucoup intervenu en EHPAD et une filière gériatrique également à l'hôpital.
Oui. Et vous ne croisez plus aujourd'hui de Covid ou peu ?
Si. J'ai un patient la semaine dernière diagnostiqué Covid dans un EHPAD, un patient mais qui était vacciné mais qui a quand même été fatigué, qui a même dû être transféré à l'hôpital. Non.
Il a été transféré à l'hôpital. Il est sorti aujourd'hui de l'hôpital ?
Non, toujours à l'hôpital.
Et par exemple, ce patient, s'il n'avait pas été vacciné, on pourrait imaginer que le Covid eût été plus grave ?
Il aurait pu l'emporter. Moi, lors de la première vague, on a eu des patients qui ont été emportés par le Covid très très rapidement.
Alors, c'est intéressant de vous avoir parce que vous êtes médecin. Et figurez-vous que Franck, qui est à Lyon et qui est artisan, pense qu'enlever le masque, c'est un suicide. C'est bien ce que vous dites, Franck ?
Oui, bonjour Pascal, oui.
Bonjour. Oui, oui. Alors, effectivement, le mot m'a interpellé parce que je le trouve particulièrement fort, un suicide d'enlever son masque à l'extérieur. Et vous allez pouvoir échanger avec Romain, qui est médecin et qui n'est pas sur votre longueur d'onde, Franck.
Après, moi, j'ai une sensibilité différente. Chacun a son avis. Lui, il a
Oui, quoi, c'est un avis de médecin contre un avis de quelqu'un qui ne l'est pas, si vous me permettez.
Oui, je suis d'accord avec vous. Mais moi, personne ne m'empêchera de continuer à le porter. Tant que je jugerai que la situation n'est pas sous contrôle. Pour moi, c'est prématuré de l'enlever. Moi, je suis à Lyon. Je travaille toute la semaine et le samedi et le dimanche, je vais faire un tour au marché, acheter mes fruits et mes légumes. Vous avez à Lyon le supermarché Opus, où je peux vous dire que depuis déjà deux bonnes semaines, à l'extérieur, les gens ne mettent plus de masque. Il y a une concentration de personnes. C'est impressionnant, au centimètre. C'est impressionnant.
Ça devrait vous rassurer.
Ça
devrait vous rassurer parce qu'il n'y a pas de cas.
Non, ça ne me rassure pas. Au contraire, ça.
Ah bon ?
Ça me fait peur. Ça me fait peur parce que comment dirais-je, les gens sont à 10 cm l'un de l'autre. Ça se postillonne dessus, ça parle.
Mais oui, mais il n'y a pas de cas précisément. Donc vous devriez vous dire, les gens sont proches les uns les autres, il n'y a pas de cas. Donc il y a deux manières de voir les choses.
Peut-être que je suis dans l'erreur.
Est-ce que je peux intervenir ?
Oui, je vous en prie, Romain. Voilà. Allez-y.
Écoutez, non, je tiens quand même malgré tout à rappeler que ce qui a été recommandé, c'était le retrait du port du masque en extérieur. Techniquement, quand on est dans un endroit où on est seul dans la rue ou qu'on croise quasiment personne, c'est évident de mettre le masque n'a aucun intérêt. Et pour être tout à fait franc, on ne sait même pas s'il y a eu un moment un intérêt. Maintenant, pour venir sur les propos de votre auditeur, concernant les marchés, dans les marchés, il est recommandé de continuer à mettre un masque. Là, vous prenez un exemple extrêmement précis. Quand vous vous rendez au marché dans la rue, vous ne mettez pas de masque. Si vous croisez quasiment personne, même si vous croisez une personne, il y a peu de risques que vous contaminiez qui que ce soit. Maintenant, quand vous êtes dans un endroit concentré où il y a une forte densité de population, il est recommandé de porter le masque. Je prends l'exemple des marchés. Vous avez pris l'exemple des marchés. Maintenant, on sait très bien qu'il va y avoir les vacances. On va y avoir des zones touristiques. Il va y avoir des rues qui vont être bondées. Quand on est dans une rue où on avance à petits pas et on marche lentement, il y a un monde monstre, si je puis dire. Ben, il faut garder son masque. C'est cohérent.
Est-ce que, Franck, vous êtes convaincu par ces arguments ?
Il faut être dans le bon sens. Et j'ajouterai une dernière chose. On sait que le Covid peut se transmettre chez les gens asymptomatiques, c'est très rare, ça arrive, mais bon. Et surtout dans les conditions actuelles, c'est encore plus rare. Mais quand vous êtes symptomatique, quand vous avez des symptômes, quand vous avez un rhume, quand vous sentez pas bien, quand vous sentez pas comme d'habitude, vous mettez un masque le temps que vous alliez faire un test pour vérifier que vous avez le Covid ou non. Ça, c'est du bon sens.
J'entends bien. Franck, est-ce que vous êtes convaincu ?
Si vous voulez, au niveau des marchés et au niveau des rues où il y aura beaucoup, beaucoup de monde, moi, il n'y a aucun doute là-dessus. Il faut continuer à porter le masque. Le problème, c'est que maintenant que vous avez dit aux gens le masque, c'est fini en extérieur, ils vont le prendre pour argent comptant.
Arrêtez de prendre les gens. Non, moi, je ne partage pas cet avis. Il ne faut pas prendre les gens. Oui, mais Romain, une fois que vous avez parlé, Oui, mais on parle tous ensemble, Romain. Donc, il faut laisser parler Franck. Et ensuite, Romain pourra de nouveau répondre. Franck, allez-y.
Pascal, je vous trouve bien optimiste. Je vous trouve bien confiant. Je vous trouve bien confiant. Je pense que maintenant que vous avez donné aux gens la liberté de le porter ou de ne pas le porter, je pense que les gens ils vont se dire, allez, c'est fini. On en a choupé, ça fait un an et demi qu'on nous bassine avec ça. Maintenant, c'est la fête. Et je pense qu'il y aura beaucoup de gens qui ne le mettront plus du tout à l'extérieur.
Bon, on va marquer une première pause. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on est à moins de 3000 cas quotidiens. Une des raisons principales, c'est sans doute la saisonnalité. Ça ne veut pas dire que l'épidémie ne reviendra pas. Certains l'annoncent en septembre-octobre avec l'automne. Les coronavirus s'arrêtent dans les pays tempérés lorsque l'été arrive et reprennent, hélas, parfois lorsque l'automne revient. À tout de suite.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RT.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro
et Laurent Tessier.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. Êtes-vous satisfait de la fin de l'obligation du port du masque à l'extérieur? C'est le sujet qui vous fait réagir depuis le début de l'émission. L'avez-vous porté ce matin dans la rue? Préférez-vous le garder? C'est le cas de Franck qui était avec nous il y a quelques secondes.
Moi, personne ne m'empêchera de continuer à le porter tant que je jugerai que la situation n'est pas sous contrôle. Pour moi, c'est prématuré de l'enlever.
Et pourtant, c'est du bon sens d'enlever son masque dehors, écrit Pépé sur la page Facebook RTL. Les auditeurs ont la parole, il faut être responsable après et s'adapter à la situation. Enfin, nous dit Laetitia, on peut respirer correctement, ça fait du bien et on revoit les gens sourire. Mais en sortant de chez moi, j'ai eu l'impression d'avoir oublié quelque chose. Pour Thierry, prenons tout ce qui est positif après des mois de grosses galères. Mais Véronique continue de le porter dehors, c'est trop tôt pour moi, je préfère rester prudente.
Ce matin dans la rue, j'ai vu des visages, le visage est un miroir, le visage est un paysage, le visage est un blason. Passé 40 ans, un homme est, paraît-il, responsable de son visage. Nous finissons toujours par avoir le visage de nos vérités, écrivait Albert Camus. Nous sommes avec Bruno, qui est pharmacien, qui habite Levallois. Bonjour.
Bonjour Pascal.
Le masque à l'extérieur.
Enfin. Bah, heureusement qu'on a commencé à l'enlever. Vous savez, on a ouvert les terrasses. Donc on voyait toutes les personnes sans masque en terrasse et ils se levaient de leur table en mettant leur masque. Une petite aberration, donc je pense qu'aujourd'hui tout le monde est content d'enlever le masque à l'extérieur qui ne sert pas peut-être à grand-chose, à part quand on est confiné ou quand vous rentrez dans un commerce, quand vous rentrez dans mon officine, certaines personnes rentrent avec le masque et heureusement, et je pense que ça va continuer. Maintenant, mettre un masque en extérieur, je pense que c'était le moment ou jamais. En plus, vu la saison, vu la période de l'été qu'on va passer, porter un masque, ça peut devenir dangereux même au niveau de l'asthme, au niveau des bronches, parce que les personnes ne peuvent pas trop respirer. Donc oui, il était temps. Et peut-être, je ne vous cache pas que peut-être cet hiver, on sera peut-être obligé de le remettre. Mais là, autant profiter de ne pas mettre le masque. Et puis, vous savez, je vais vous dire, Pascal, les gens n'en peuvent plus. Ils ne se connaissent pas, ils ne se voient pas. On ne sait pas qui est qui. La sociabilisation passe par le regard, le visage, le sourire, les dents, la beauté.
Vous dites les gens n'en peuvent plus. Moi, je suis partagé là-dessus parce que effectivement, souvent, moi, j'ai montré ici mon agacement du masque à l'extérieur. Ouais, mais dans la rue aujourd'hui, j'ai vu beaucoup de gens avec des masques. Beaucoup. Oui, j'ai vu des visages, bien sûr, mais j'ai vu beaucoup de gens qui l'ont gardé. Alors, pour tout vous dire, j'avais envie de leur dire « Pourquoi vous gardez votre masque ?» Mais bon, je me suis dit que j'étais pas dans l'émission, donc ça serait pas bien de leur parler et de leur demander. Mais vraiment, ça m'intéressait de leur dire « Mais pourquoi vous le gardez ?» Puisqu'on vous dit qu'il n'y a plus de contamination dehors, etc. Donc, ça m'intéressait.
La peur peut-être... Moi,
je pense que c'est ça, vous avez raison, la peur, l'anxiété.
Quand j'ai entendu votre auditeur juste avant qui disait que c'était un suicide, je pense que c'est, je veux pas dire, mais les personnes qui vont s'enfermer chez eux, il va y en avoir. Des gens qui ont peur, qui touchent encore les poignets avec des mouchoirs, il y en a qui portent des gants.
Oui, alors qu'on nous dit que ça sert à rien et que ça ne se transmet pas par le toucher. Vous avez raison.
La psychose va rester, et ça, c'est les blessures de cette pandémie. Mais si la majorité vont commencer à comprendre et à sortir de ce confinement psychologique, déjà on va avancer et petit à petit, plus on vaccinera. De toute façon, la sortie, c'est la vaccination, il faut le reconnaître. Et une fois qu'on sera tous vaccinés à 80-90%, parce que je veux dire, il n'y a pas assez de monde encore vacciné. Mais on va y arriver au fur et à mesure du temps. Il faut qu'il y ait au moins 80%, 60%.
Bon, vous êtes vacciné vous-même ?
Oui, bien sûr, évidemment.
Vous êtes pharmacien d'ailleurs, et ça m'arrive parfois d'acheter des tests. On dit test entier, autotest. Alors je l'ai fait. C'est vraiment fiable ou pas ?
C'est fiable à 95%, Pascal.
D'accord. Et alors on se met bien le, tout simplement dans le nez, mais on ne le remonte pas jusqu'au bout.
Non,
simplement en agitant dans le nez, ça suffit.
En agitant, vous faites un frottis nasal, on va dire.
Oui, tout à fait, c'est ce que je fais, un petit frottis nasal.
Vous trempez et vous avez la réponse.
Je l'ai dans le quart d'heure et je le fais régulièrement, voilà. Pour tout vous dire, je le faisais.
Testons-nous.
Testons-nous les uns
les
autres.
Pour les gens qui ont peur. Et puis vaccinez-vous. Et puis au fur et à mesure du temps, ça va partir. Mais je vous assure, ce matin, dans mon officine, les gens rentraient avec le masque. Mais enfin, une libération. On a été privés de visage, de vue. Et là, les gens...
Je suis content que vous réagissiez comme ça, parce que vous êtes soignant et tous les soignants ne réagissent pas comme ça. Merci Bruno, en tout cas.
Je vous en prie, Pascal. Bon après-midi.
Merci beaucoup, Frédéric.
Et bon sourire.
Bon, oui, mais Greg Caranoni est là aussi, qui sourit. C'est un garçon souriant, d'ailleurs, Greg.
Bonjour Bruno, bonjour à tous, oui.
Mais vous n'avez pas mis votre masque aujourd'hui complètement ?
Bien sûr, je le mets tout le temps.
Ah oui, d'habitude, je ne le voyais pas derrière la régie.
Si,
oui, il faut le mettre.
Évidemment.
Effectivement, parce qu'en intérieur, il n'est toujours pas...
Je le garde toujours.
Bien sûr.
Même en intérieur.
RTL, nous avons un code de bonne conduite à l'intérieur. Chacun porte le masque pendant son travail.
Après, vous allez au café ensemble ou pas ?
Est-ce qu'on va au café ensemble ?
Oui.
Pourquoi vous demandez ça ?
Savoir si ensuite, si quand on est au café, allez-y Bruno, pardon.
Si vous allez au café ensemble et vous buvez votre café, est-ce que vous enlevez votre masque ? Les distances sont moins protégées que dans votre bureau. Donc au café. Théoriquement, il faudrait aussi garder le masque. Donc, en fin de compte, c'est une aberration. Et je pense qu'aujourd'hui, on peut faire attention, se vacciner et peut-être être plus léger, enlever les masques dans des endroits où on peut se permettre.
Mais vous voyez, Bruno, quand le midi, nous déjeunons à la cantine avec Laurent Tessier, la responsable du système, par exemple, et toutes les équipes, on garde les distances d'au moins 2 mètres en respectant des distances en déjeunant ensemble, certes.
Mais quand est-ce que vous déjeunez à la cantine, vous ? Puisqu'à 14h30, elle est fermée, la cantine.
On se débrouille, on apporte notre petit déjeuner, notre encas.
Ah oui, parce que moi j'aimerais bien déjeuner à la cantine,
mais
elle est fermée.
Venez, préparez votre déjeuner la veille et puis vous nous rejoignez.
Ah oui, il faut préparer son déjeuner pour déjeuner à la cantine, d'accord.
En tout cas, on fait très attention, c'est ce que je voulais dire.
Bien sûr. Merci Bruno. Merci, on va marquer une pause. C'est jeudi. Alors, on a plein de sujets. C'est vrai qu'on aime parler chaque année des sujets de philo, parce qu'on se souvient de... Je ne sais pas si vous vous souvenez de votre sujet de bac de philo. Discuter, est-ce renoncer à la violence ? L'inconscient échappe-t-il à toute forme de connaissance ? Ça, c'est intéressant. Sommes-nous responsables de l'avenir ? On a envie de dire oui, quand même. On est un peu responsable de l'avenir. Ce sont les sujets d'aujourd'hui. Vous nous direz ce que vous en pensez. Approuvez-vous la fin de l'obligation du masque ? C'est ce dont on parle actuellement. Dans 3 jours, les élections régionales. Faut-il interdire le burkini dans les piscines municipales ? Voilà un excellent sujet. Faut-il rendre la vaccination obligatoire ? Voilà encore un autre excellent sujet. Pour les soignants, mais peut-être pour tout le monde. Et puis Coluche, qui était mort il y a 35 ans. Et puis enfin, la lecture doit-elle être une grande cause nationale ? Qu'est-ce que vous lisez en ce moment, Greg ?
La famille Martin, David Fuenkinos.
Eh bien, écoutez, c'est un roman.
Absolument.
Eh bien, ça, c'est intéressant de dire ce qu'on lit. Appelez-nous pour cela aussi. À tout de suite.
Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL. Pascal Praud.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Laurent.
Appelez-nous pour parler de la philo, discuter, est-ce renoncer à la violence ? L'inconscient échappe-t-il à toute forme de connaissance ? Sommes-nous responsables de l'avenir ? Ce sont les sujets de philosophie du baccalauréat général. Lequel auriez-vous choisi ? Ces questions ont-elles inspiré les lycéens ?
Alors, j'étais pas très inspiré.
J'ai commencé le texte et ça a duré 1h15 jusqu'à ce que je me rende compte que je disais n'importe quoi et après j'ai fait l'autre.
Et vous avez choisi quoi ?
Discuter, est-ce renoncer à la violence ? Voilà.
En plus, c'était un peu relié avec l'actualité.
Fallait-il maintenir cette épreuve, c'est la seule épreuve écrite de cette session du bac 2021. L'enjeu est réduit, c'est la meilleure note qui sera retenue entre celle obtenue lors de l'examen et celle du contrôle continu. La philo est-elle un moment symbolique ? Oui, Anthony parle d'une épreuve incontournable, irremplaçable et excellente. De toute façon, rappelle Thierry sur nos réseaux sociaux en 2021, il est plus difficile de rater son bac que de l'avoir. On ferait mieux d'apprendre aux ados à écrire correctement, rajoute Fred. La philosophie enseignée aujourd'hui n'est pas utile. Alors, à quoi sert la philo ? 3210.
J'espère qu'on pourra traiter ces sujets parce que, oui. Par exemple, l'inconscient échappe-t-il à toute forme de connaissance. C'est peut-être le sujet le plus littéraire, le plus abstrait. Je ne sais pas ce que vous en pensez. L'inconscient échappe-t-il à toute forme de connaissance ?
Je préfère discuter et se renoncer à la violence.
Bah oui, parce que c'est plus facile. C'est plus facile, évidemment. Mais l'inconscient échappe-t-il à toute forme de connaissance ?
Quelle est votre réponse ?
Bah écoutez, justement, faut réfléchir. C'est quoi l'inconscient ?
C'est déjà une grande question.
Bon, je vois qu'on va avancer. C'est ce qui n'est pas
Greg.
L'inconscient, cher ami, c'est ce qui n'est pas conscient.
Oui, tout à fait.
Par définition, si on croit par exemple à la psychanalyse, on croit qu'on est muet par des choses dont on n'a même pas conscience. Par exemple, vous êtes devenu journaliste et au fond, pour des raisons que vous ne connaissez pas vous-même. C'est un inconscient, pourquoi pas, qui vous a mené jusque-là.
Vous m'avez perdu.
Bon, si on croit à la psychanalyse, parce qu'on peut aussi la rejeter, on peut dire tout ça est un foutoir absolu. Il y a des gens qui disent, personne n'a jamais vu d'inconscient. Sauf sur la route, peut-être à 180 à l'heure, vous voyez ce que je veux dire. Mais l'inconscient, on peut considérer que ça n'existe pas. Certains le disent.
Appelez-nous pour.
C'est pas de la foudre, mais on te dit t'as un inconscient. Bon, d'accord. Certains disent, mais tu l'as vu où ton inconscient ? Voilà un bon sujet aussi. Frédéric, j'ai pas d'avis, bien sûr. Frédéric, bonjour. On est plus terre à terre sur le masque. Vous êtes commandant de police dans les Hauts-de-France. Vous êtes content ?
Qu'on ne doive plus le porter en extérieur, oui.
Bah oui, parce que c'est le sujet, effectivement, depuis hier.
À l'instar de nos compatriotes, c'est vrai que ça a commencé à devenir pénible et que, ne serait-ce que pour le dialogue entre les policiers et la population, c'est plus facile sans le masque.
Oui, vous avez raison, les policiers, vous l'aviez tout le temps et vous êtes souvent dehors, toujours dehors. Parce que, en fait, les gens, ils ne sont pas tous dehors, mais un policier, il est dehors tout le temps. Donc lui, il avait le masque c'est pas pratique pour parler aux gens, vous avez parfaitement raison.
Et même dans les bureaux, port du masque obligatoire.
Oui, alors ça, effectivement, ça c'est pour tout le monde.
Voilà, ça c'est pour tout le monde.
Bon, c'était respecté ?
Oui, globalement, comme j'ai dit à Olivier tout à l'heure, c'était globalement respecté. Ensuite, bon, il y a toujours quelques réfractaires ou têtes en l'air qui oubliaient de le mettre. Mais globalement, ça s'est bien passé.
Je voudrais savoir combien d'amendes ont été faites pour des gens qui ne portaient pas leur masque à l'extérieur. Je pense que le chiffre doit être très bas.
Joker.
Ah non, dites Joker, pourquoi, dites-moi.
Moi, j'ai pas de statistiques en la matière.
Oui, mais ça, vous semblez dire que en fait, on verbalisait pas. C'est ça que je veux dire, c'est qu'on le policier parfois allait vers la personne, disait portez votre masque, mais il n'allait pas jusqu'à verbaliser.
Oui,
je connais une personne qui a été verbalisée parce qu'elle ne portait pas son masque à l'extérieur.
Bon, après, effectivement, nous avons fait énormément de pédagogie parce qu'on connaît les difficultés du port du masque et puis on sort de la voiture, on ne fait pas attention, on ne met pas son masque. On a fait preuve de beaucoup de compréhension. Maintenant, certaines personnes ont été verbalisées parce que leur comportement entraînait une verbalisation. C'est uniquement
oui, bien sûr, c'est parce qu'ils étaient, ils répondaient comprennent. Pas comme il fallait, avec arrogance peut-être ou violence.
Voilà, et puis voilà. Avec d'autres propos, mais globalement, ça s'est bien passé.
Je suis d'accord avec vous. Non, moi, je connais une personne dans Paris, je ne dirais pas qui c'est. C'est quelqu'un qui est passé par RTL et il m'a raconté, c'était un dimanche matin, il était tout seul dans une rue de Paris. Il avait son masque à la main en plus. Hein. Et puis, une patrouille est passée. Alors, je lui ai dit, mais t'as dit quelque chose, c'est pas possible. T'as pas été sympa. Non, rien du tout. Ils l'ont verbalisé.
C'est quelqu'un qui est toujours RTL ?
Non. 135 euros quand même. 135 euros. Bon, merci beaucoup Frédéric.
De rien.
Merci beaucoup.
Merci à
vous. Sébastien est là aussi, qui habite Lannion, en Bretagne.
Oui.
Bonjour Sébastien.
Bonjour Pascal.
Ça va bien, vous êtes content ?
Ah ben écoutez, moi oui, mais comme je disais à votre standardiste, j'étais le premier surpris. J'entendais tout le monde dans mon entourage, jeune ou moins jeune, on en a marre de ce masque, on est pris en otage, on est infantilisé, tout. Là, on nous annonce depuis hier, c'est bon, pas les masques. Et je vois du monde dans les rues, ils ont encore.
C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, moi, ça m'a frappé comme vous.
Pascal, ça m'a frappé. Et ça m'a fait rire quand je l'ai entendu dire, j'avais envie de leur dire, vous êtes au courant, vous n'avez pas la télé, la radio, c'est bon, vous pouvez, on est libérés, quoi. Je vais un petit peu faire un paradoxe qui peut être un peu dur, mais c'est bon, les Allemands sont partis, on marche plus bras en l'air, on est obligés, c'est bon. On est tout obligé d'obtenir, quoi.
Je vous confirme que le parallèle est un peu audacieux, peut-être. J'étais surpris comme vous, parce que c'était pas un masque de temps en temps, c'était... je veux pas dire, c'était une personne sur deux, c'est difficile de faire un rapport, mais c'était beaucoup de personnes.
Et pas que des anciens qui...
Bien sûr, même des jeunes, vous avez parfaitement raison.
Et j'étais surpris. Je disais, pourtant, moi, j'ai des jeunes dans mon entourage, puisque j'ai deux filles de 18 et, enfin, de 17 et 14 ans. Mais je me dis, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? Et moi, mon analyse, eh ben, on est conditionné. Et ça me fait même peur. J'ai même peur qu'on soit arrivé comme à Tokyo. Vous savez, on va vivre tout le temps avec le masque.
Ah, bah, c'est. Si vous nous écoutez tous les jours, moi, c'est ma crainte. Que le masque soit entré dans notre culture et que dans les entreprises notamment, il soit imposé par des gens qui iront voir les dirigeants, les DRH et qui diront « j'ai pas à prendre le rhume de M. Caranoni, je n'ai pas à prendre le coronavirus de M. Tessier, donc des masques pour tout le monde ».
C'est ça, et c'est, moi ça m'inquiète personnellement parce que j'ai peur d'être vraiment un petit peu pris en otage avec ce masque.
Ben oui.
J'étais un des premiers, hein, je ne m'en cache pas, je ne l'ai jamais mis dehors, jamais. C'est clair, net et précis. À l'extérieur, à l'air libre, je ne mets pas le masque. Après, par contre, je suis si demain on vit sur le masque, moi j'estime que demain, même sans coronavirus, il y a des endroits où il faudra mettre le masque. On va chez le médecin, dans une salle d'attente, il faut mettre son masque. Il y a que des gens malades, ça me paraît logique.
Bien sûr, propos de bon sens. Merci, merci beaucoup.
Merci.
Nous avons également savoir, est-ce ne rien croire ? Qu'est-ce que vous pensez de ce sujet de film, Derek Caranoni ?
Alors, c'est-à-dire que 15 secondes avant de faire une pause, c'est pas évident de développer.
Je l'aurais fait avec plaisir, pourtant. Savoir, est-ce ne rien croire ? Ah oui, parce que savoir...
Je crois pas.
Non, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Savoir, bah, c'est j'ai appris, j'ai travaillé, j'ai pu me mettre en contact avec la matière dont je vais parler, donc je sais... Et croire, c'est le contraire. Je crois que l'épidémie va s'arrêter. Ça ne veut rien dire, je crois. Vous voyez ?
Mais ne peut-on pas s'appuyer sur le savoir pour croire ?
Ne peut-on pas s'appuyer sur le savoir pour croire ? Bah, quand on sait, c'est le stade supérieur à ce qu'on croit.
Mais est-ce qu'un savoir ne peut pas valider une croyance ?
C'est une question que vous posez aux auditeurs. Mais ça, c'est très intéressant. Savoir, est-ce ne rien croire ? C'est refuser de croire, peut-être. Je refuse de croire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir. Donc, je refuse de croire. Donc, je vais travailler. Donc, je vais écouter, je vais me documenter, etc. etc.
Mais est-ce vraiment incompatible de savoir et de croire ?
Mais est-ce incompatible ? C'est ce que...
Oui. Attendez que vous posez la question.
C'est un peu la question qui est posée. Mais les auditeurs vont le dire. Tiens, ça, c'est une bonne question. Appelez-nous sur la philo. C'est bien de faire de la philo. A tout de suite.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Pascal Pro.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Nous sommes avec Olivier Marino, qui est rédacteur en chef de Var Matin, pour décrypter les enjeux en Provence et Alpes-Côte d'Azur. Bonjour Olivier.
Bonjour Pascal, j'espère que vous allez croire en mes réponses.
Mais je vais croire en vos réponses, mais surtout vous savez que Var Matin, quand j'entends Var Matin, c'est déjà les vacances. Parce que c'est tellement associé lorsqu'on est dans votre belle région à la lecture de votre journal Var Matin, que effectivement on est un peu en vacances. Quel est le risque d'abstention dans votre région ?
Ah bah le risque il est très fort. Aujourd'hui on parle de presque 60% au premier tour, voire plus. Il faut savoir qu'en 2015 l'abstention c'était 48%. Et là on dit qu'un jeune sur cinq irait voter. Donc voilà, le premier parti aujourd'hui dans la région PACA, c'est pas le RN ni LR, mais c'est bien le parti de l'abstention.
Selon notre sondage BVA pour RTL et Orange, au premier tour, Thierry Mariani arriverait nettement en tête des intentions de vote, 42%, devant Renaud Muselier, 33%, et Jean-Laurent Felizza, qui représente les écologistes, serait troisième avec 16%. C'est-à-dire que Mariani plus Muselier, c'est 42 plus 33, ça fait 75% pour deux candidats quand même de droite. Disons-le. Donc, pourquoi votre région, ça doit être unique d'ailleurs en France, pourquoi cette région est-elle autant à droite ?
Ouais, bonne question. Bah, la gauche a quand même dominé pendant longtemps le conseil régional avec Michel Vauzelle. Mais aujourd'hui, on a évidemment deux poids lourds qui écrasent un peu tout. Monsieur Felizian est très très peu connu. Et aujourd'hui, ce qu'on se rend compte aussi dans les enquêtes d'opinion, c'est que les électeurs de gauche sont très faiblement mobilisés. 37% d'entre eux iraient voter. Et donc, à côté, le RN mobilise beaucoup. Pratiquement 90% des électeurs sont sûrs d'aller voter. Et côté LR, bah, c'est vrai qu'ils ont été un peu désorientés par ces tractations entre LR et LREM qui a perturbé un peu les électeurs aujourd'hui, qui fait qu'on est dans une situation où M. Mariani est donné gagnant dans tous les sondages.
Vous connaissez très bien, j'imagine, vos lecteurs qui sont aussi les habitants de la région PACA. Qu'est-ce qu'ils vous disent ?
Ben, on est allé les voir justement, et dans un dossier publié ce matin, on les fait parler un peu sur le terrain, et c'est vrai qu'ils sont un peu désabusés. Voilà, ils nous disent je ne me reconnais pas dans un parti, les candidats sont déconnectés, ça va même plus loin. Hein. Un lecteur nous a dit tout le monde s'en fout, même si c'est l'extrême droite qui gagne. Voilà, donc on est dans une situation où aujourd'hui l'élection au niveau local n'imprime pas beaucoup, alors qu'au niveau national, il y a des enjeux qui sont vraiment très très forts, parce qu'effectivement, une défaite de LR et de M. Muselier pourrait accélérer la recomposition politique du paysage à droite.
Désenchantement des électeurs, nous dites-vous, mais quelles sont leurs priorités, selon vous ?
Ben, il y a... l'économie, l'écologie et l'environnement, c'est vrai que ce sont des choses qui sont ressorties quand on discute avec eux. Mais bon, on voit que de toute façon, dans les enquêtes d'opinion, c'est la sécurité qui les préoccupe et la santé aussi. Donc le Rassemblement National fait campagne, même au niveau national, sur ce thème-là, mais qui ne sont pas des compétences de la région. Donc il y a peut-être aussi une forme de décalage entre les enjeux locaux et ce qui peut se passer au national, qui perturbe un peu les électeurs qui se retrouvent plus beaucoup dans ces élections intermédiaires ou plus locales, qui ne sont pas des municipales, qui sont encore les dernières élections qui intéressent le plus les gens.
Olivier Marino, qui est rédacteur en chef de Var Matin, pour décrypter les enjeux donc en Provence, Alpes, Côte d'Azur, de l'élection régionale. Sur le terrain, est-ce que vous diriez que c'est difficile pour vous de travailler ? Est-ce que les journalistes que vous êtes sont confrontés à des difficultés, que ce soit parfois avec les candidats, mais également parfois avec des lecteurs ou tout simplement des habitants qui vous apostrophent ? On sent qu'il y a parfois un climat compliqué entre les journalistes aujourd'hui et puis le public ?
On a un journal local, donc on a des journalistes qui sont quand même bien implantés sur le terrain. Donc parfois ça peut être ponctuellement compliqué, mais généralement on est plutôt bien reçu, on discute. Il y a pas de problème avec les journalistes. Mais c'est vrai que la campagne sur le terrain, au niveau politique en tout cas, elle a été très tendue. Il y a beaucoup de fébrilité. C'est une campagne assez courte et c'est vrai que là on a un sortant qui se retrouve en position un peu challenger. Donc voilà, c'est une campagne vraiment politiquement assez tendue et avec des enjeux nationaux forts, et Marine Le Pen n'y se trompe pas en venant aujourd'hui à Toulon pour soutenir Monsieur Mariani.
Bah merci beaucoup Monsieur Marino, et puis il y a quand même quelque chose, là vous êtes à Toulon aujourd'hui, mais évidemment Var Matin est également présent, j'imagine, jusqu'à Marseille. Il y a au moins une musique qui peut tous nous mettre d'accord et mettre d'accord vos lecteurs. Je l'entendais ce matin avec Cyprien Sini. Et ça reste peut-être l'actualité finalement la plus importante pour les lecteurs de Var Matin, de savoir quels sont les joueurs qui vont venir à l'OM la saison prochaine.
Il y a beaucoup de supporters marseillais dans le Var, mais vous savez, ici on est avant tout supporters du RCT, du Rugby Club Toulonnais. Mmh. Et donc c'est vraiment le rugby qui fait vivre la ville de Toulon.
Ah ouais, plus encore que le foot à Marseille, même si la proximité est grande. Bah, merci beaucoup, vraiment merci
à vous,
Olivier Marino. Et on va marquer une nouvelle pause et puis vous pouvez intervenir. Moi, j'aime beaucoup le sujet de la lecture. La lecture doit-elle être une grande cause nationale ? Lecture et philo, ça serait pas mal aujourd'hui si on évoquait ces sujets. On a fini peut-être maintenant avec le masque. À tout de suite.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Un beau matin de juillet, le réveil a sonné dès le lever du soleil. Et j'ai dit à ma poupée, faut te squeeze, c'est aujourd'hui qu'il part.
C'était la pépite d'Anthony Martin ce matin, Coluche est mort il y a 35 ans. Et c'était en 1986, c'était quelques jours avant France-Brésil, le fameux quart de finale avec Luis Fernandez qui marque le dernier pénalty. Vous pourrez réagir et appeler.
Quel souvenir gardez-vous de l'humoriste ? Quel est votre sketch préféré ? Pourrait-il faire le même humour aujourd'hui ?
Je sais pas, bien les gens ils disent, la police c'est un refuge pour les alcooliques qu'on n'a pas voulu à la SNCF et au PTT. Et ben je vais vous dire franchement, c'est exagéré.
Vos souvenirs avec Coluche et dans quelques instants au 32-10. Faut-il rendre la vaccination obligatoire pour les soignants en EHPAD ? Le ministre de la Santé, Olivier Véran, a lancé ce matin chez nos confrères de BFM un appel solennel à celles et ceux qui ne sont pas encore vaccinés.
Les soignants en ville, en secteur libéral, on est à 85% de couverture vaccinale, ce qui est pas mal. En EHPAD, on est à 50%. Or, en EHPAD, c'est là qu'on trouve les personnes les plus fragiles. Ça n'est pas justifiable. Donc, j'appelle les employeurs, j'appelle également les salariés de ces EHPAD, notamment à se faire vacciner. Nous y travaillons avec Brigitte Bourguignon. Et d'ici la fin de l'été, si ça ne devait pas s'améliorer, oui, nous nous poserions la question d'une obligation vaccinale pour ces publics particuliers.
Je ne comprends pas, nous dit Monique, sur la page Facebook RTL, les auditeurs ont la parole. Comment des soignants en EHPAD peuvent-ils encore attendre ? C'est du bon sens. Vaccinez-vous, protégez nos anciens, nos parents. Il n'y a que l'obligation qui peut accélérer les choses pour Karine. Et vous, qu'en pensez-vous ? 3210, 3210.
Les élections régionales, à présent avec Patrick qui habite Rennes. Bonjour.
Oui, bonjour Pascal. Merci d'avoir retenu mon appel. Je suis très content de pouvoir dialoguer avec vous un petit moment. Alors effectivement, moi, j'ai souhaité m'exprimer sur les élections régionales. Alors vous avez trouvé ça très drôle parce que moi j'ai 64 ans presque, hein, et j'ai toujours voté de ma vie. Et depuis quelque temps, grâce à des amis, j'ai pris un peu conscience de la condition animale, si vous voulez, de certains cas de maltraitance, de la chasse. Entre autres, la chasse grillagée. Après, on vous parle d'éthique de la chasse. Enfin, tout ça m'a vraiment bouleversé parce que il y a plein de choses qui sont pas normales, qu'on ne dit pas et qui me touchent profondément, quoi. Et alors donc, moi, si vous voulez, compte tenu de l'approche des élections régionales, j'ai un peu potassé, je me suis renseigné. En fait, ici, dans la région de Rennes, Vitré, Laval, etc., aucun candidat, hein, vous m'entendez, aucun candidat, mis à part les Insoumis et un autre candidat, mais bon, qui ne m'intéresse pas du tout, aucun, vous m'entendez, ne prend position pour, disons, entre guillemets, améliorer un petit peu la condition animale dans les élevages, etc. Et puis, voilà. Et ça, c'est... Et alors, moi, maintenant, si vous voulez, pour moi, c'est devenu une cause très importante pour moi. Autrefois, moi, j'étais un consommateur important de viande, et depuis quelques années, je mange pratiquement plus viande, et entre nous, c'est vrai que je m'en porte pas plus mal. Mais c'est vrai que pour moi, c'est devenu une cause vraiment très importante, parce que j'ai la chance d'avoir d'habiter en campagne, j'ai quelques animaux, et c'est un vrai bonheur d'avoir des animaux, d'autant plus qu'il est prouvé et reprouvé que les animaux, à leur niveau, bien entendu, ont leur sensibilité. Et là, quand je vois tous ces cas, et surtout la chasse, Pascal, qui me perturbe énormément, et ça, on le dit pas beaucoup, pas suffisamment dans les médias, je pense plus particulièrement à la chasse en parc grillagé. Pensez-vous qu'en Bretagne, on élève, alors que vous avez des régions où les sangliers... moi, je suis pas contre la chasse dès lors qu'il s'agit d'une régulation. Mais on élève des sangliers en Bretagne et partout en France uniquement pour leur tirer dessus, sans compter les canards, les lapins. Et après, on nous parle d'éthique de la chasse. Et ça, on n'en parle jamais.
Les sangliers, parfois, il y en a trop. Mais je regardais les élections régionales de 2021 en Bretagne. Alors, effectivement, il y a Loïg Chesnais-Girard pour le PS, la Bretagne avec Loïg. Vous avez Isabelle Le Callennec, la Bretagne, républicain. Ouais. Donc ça, c'est pas votre truc, si j'ose dire. Vous avez la Bretagne, c'est Thierry Burlot, DVC.
Oui.
Vous avez Gilles Penel du Rassemblement National, une Bretagne forte.
Oui,
vous avez
Claire
Desmarques-Poirier, Europe Écologie Les Verts, Bretagne d'avenir. C'est assez amusant d'ailleurs de voir à chaque fois le titre de la campagne. Vous avez Pierre-Yves Cadalin ou Cadelaine qui dit Bretagne insoumise, donc de la France insoumise.
Lui prend position.
D'accord. Vous avez Joannick Martin, Bretagne responsable, c'est le parti breton. Vous avez Daniel Cueff, Bretagne ma vie. Donc, qui est un candidat écologiste. Vous avez David Cabat, qui est, je ne sais pas ce qu'il est, la Bretagne avec David Cabat, Debout la France. Et puis vous avez Yves Chauvel, la Bretagne en héritage, volontaire pour la France. C'est un rassemblement national dissident.
Oui,
donc, il n'y a pas de parti animal. Bon.
Non, personne ne prend position, vous voyez.
Ouais, j'ai entendu. Alors, je pense que vous dites qu'ils ne prennent pas position, mais s'ils étaient interrogés, peut-être qu'ils donneraient. Vous allez sûrement trouver.
Ils ont été interrogés. Hein. Ouais, il y a un certain nombre d'associations qui leur ont envoyé des pétitions, mis à part d'eux, qui ont répondu. Tous les autres ne prennent pas position, parce que vous savez, en Bretagne, le lobby de la chasse, c'est très important. Enfin,
c'est vrai.
C'est pas spécialement le lobby de la chasse. Mais Pascal, si je peux me permettre, juste deux secondes, vous parliez des sangliers. Vous dites, oui, c'est vrai qu'il y en a trop.
C'est vrai qu'il y en a parfois beaucoup. C'est un drame, les sangliers, Pascal, pour les agriculteurs, je vous assure. Hein, un sanglier dans votre jardin, un sanglier qui passe dans votre jardin, ça bousille votre jardin complètement. C'est compliqué.
Pascal, moi, je suis pas contre la chasse dès lors qu'il s'agit d'une vraie régulation. Mais je tiens à souligner qu'il y a en France un certain nombre d'élevages de sangliers. On élève des sangliers pour leur tirer dessus en lieu clos. Ça, pour moi, c'est pas de la chasse, c'est pas de l'éthique.
Ben merci, ça, Patrick. La pause et la philo arrive. La philo, on va être avec Thomas. Thomas, il est lycéen. Vous vous rendez compte la chance qu'il a? Il a passé l'épreuve ce matin. Il est déjà avec nous, Thomas?
Oui, je suis là.
Eh bien,
là.
Thomas, restez là parce que après, vous allez nous dire quand. Vous êtes resté les 4 heures?
Non.
Vous êtes sorti au bout de combien de
3
temps?
3 heures.
Au bout de 3 heures, vous êtes sorti?
Oui, c'est le temps quand même de.
Vous êtes rapide.
Oui, voilà.
À tout de suite.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro. 13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Thomas! Comme je vous envie, Thomas, ou pas d'ailleurs, je ne sais pas si j'aimerais être lycéen toujours. Vous allez bien? Quel âge vous avez, Thomas?
J'ai 17 ans et demi.
Bon, donc vous avez passé le bac philo ce matin?
C'est ça, à 8h.
À 8h. Qu'est-ce que vous avez choisi comme sujet?
J'ai pris le sujet 1 qui parlait de discuter, est-ce renoncer à la violence?
Discuter, est-ce renoncer à la violence? Qu'est-ce que vous avez dit?
J'ai fait un raisonnement en deux parties, en disant d'abord non et après oui.
Pourquoi non?
Non, parce que ça dépend en fait du point de vue de chaque personne déjà, je trouve. Parce que ça dépend du point de vue en fait par lequel on dit discuter ou pas. Parce que des fois, des gens qui discutent peuvent aussi parler de manière immorale et au final, en soi, c'est un peu violent. Donc en ça, je trouve non. Et j'ai aussi dit oui, du coup, parce que je trouve que discuter, c'est renoncer à la violence parce que c'est plus pacifiste que d'en venir aux mains, par exemple. Et après, j'ai parlé de quelques auteurs, philosophes, et j'ai conclu après, en 6 pages.
Est-ce que vous êtes satisfait de ce que vous avez fait?
Oui, franchement, oui, parce que je ne m'étais pas trop préparé, parce que je l'ai pris un peu, peut-être, à la légère, vu que ce n'est pas ma matière préférée, en vrai. Donc, j'ai révisé quand même assez beaucoup la dernière semaine qui a précédé. Et hier, je me suis permis de faire une petite pause et de pas réviser pour aller dehors et sortir. Et là, franchement, je pense que oui, j'ai quand même géré.
Vous pensez... D'abord, quand vous dites que ce n'est pas votre matière préférée, d'habitude, vous avez combien en philo?
J'ai la moyenne, j'ai 10, 11.
Pourquoi vous dites d'abord oui, d'abord non? C'est-à-dire que c'est une forme, c'est thèse, antithèse et synthèse, si j'ose dire, c'est une manière mécanique, par exemple, de répondre à une question. C'est quasiment obligatoire de donner les arguments pour, les arguments contre.
Au vu de la question, oui, c'était obligatoire.
Bah écoutez, c'est intéressant cette construction là que vous avez faite. Et sur le fond, vous, une fois qu'on a tout dit et qu'on est débarrassé du côté, j'ai envie de dire scolaire, vous en pensez quoi de cette question? Discuter, est-ce renoncer à la violence?
En soi, elle est compliquée, je trouve, parce qu'elle n'est pas donnée à tout le monde. Il faut quand même avoir un minimum de réflexion, je trouve, parce que on peut pas poser la question là à tout le monde en fait. Elle est un peu compliquée parce que, en soi, discuter, personne ne sait vraiment quoi ce que ça veut dire.
Et, vous pensez?
La violence, c'est aussi, c'est pas vraiment universel. Ça peut être moral, immoral, verbal. corporelle. Donc,
Là, je l'imagine comme violence physique. Hein. C'est comme ça. C'est où on discute, où on se tape dessus. Mais à partir du moment où on choisit d'échanger par les paroles, c'est qu'on refuse le combat primaire et physique. C'est comme ça, peut-être qu'il faut l'interpréter. Parce qu'on pourrait aussi dire qu'il y a des paroles qui peuvent être très violentes. Hein. Il y a une violence verbale parfois, même dans la discussion, forcément.
C'était un de mes arguments, ça, en plus. Donc oui. Moi, quand j'ai pris le sujet-là, je savais déjà qu'il fallait que je parle aussi de la violence corporelle, donc de la bagarre, clairement, mais aussi de la violence verbale, en fait. Parce que c'est peut-être aussi une partie de la violence qu'on minimise, mais en soi, c'est aussi celle-là qui fait très très mal.
Vous nous rappellerez pour votre note ?
Oui, bien évidemment.
Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Thomas. Vraiment, c'était intéressant d'échanger avec nous. On va être maintenant avec Julien. Bonjour, Julien.
Oui, bonjour, Pascal.
Je crois que vous, ce qui vous a intéressé... Alors, vous avez 35 ans, donc il y a bien longtemps que vous êtes éloigné de l'idée de passer le bac. Mais je crois que la question qu'on a posée tout à l'heure, savoir est-ce ne rien croire ? Savoir, est-ce ne rien croire ? C'est mettre en opposition, au fond, le savoir et la croyance. Je pense que ça vous inspire.
Oui, tout à fait, ça m'inspire, parce que je pense justement que le savoir n'est pas opposé à la croyance. Tout simplement parce que la croyance, justement, c'est croire en quelque chose. Mais savoir, c'est essayer de prouver cette chose. Donc tant que la chose n'a pas été prouvée, on ne peut pas savoir. Et tant que ce n'est pas su, on ne peut pas ne pas y croire.
Écoutez, ça peut s'entendre, mais est-ce que vous voyez et c'est intéressant d'ailleurs pour les journalistes que nous sommes cette question, est-ce que vous voyez une opposition précisément entre le fait de savoir et de croire ?
Oui, tout à fait. Tout à fait, parce que je pense que justement le fait de croire en quelque chose, comme j'expliquais tout à l'heure à votre standardiste, justement le fait de croire en quelque chose, par exemple comme pour les religions, tant qu'on croit, c'est une chose, mais ce n'est pas prouvé. Vous voyez ce que je veux dire,
oui, mais alors il y a des choses qu'on ne pourra jamais savoir, pour le coup.
Voilà, exactement.
Je veux dire, la foi, là, elle est improuvable. Donc
voilà,
c'est un des rares cas, j'ai envie de dire, où on peut croire malgré tout. Vous voyez, parce que par définition, on n'a pas de réponse. Mais en revanche, croire en un médicament, j'ai envie de dire, ça n'a pas beaucoup de sens. Ce qu'il faut, c'est savoir s'il est efficace ou pas. Et ça, c'est scientifique, rationnel.
Oui, mais scientifiquement, on peut dire justement que de croire en quelque chose, de croire en un médicament, par exemple, comme actuellement, on va dire, si on peut dire, bien sûr, quand on pense par exemple au Covid actuellement qui fait des ravages dans le monde... Beaucoup de gens sont sceptiques concernant le vaccin. Mais tant qu'on n'aura pas eu d'éloignement vis-à-vis du vaccin, on ne pourra pas savoir s'il est réellement efficace à 100% ou pas. Donc, ce n'est pas opposé. On peut toujours croire. Moi, je suis vacciné, par exemple. Oui, je suis vacciné parce que je crois en ce vaccin. Mais je ne sais pas si je suis vraiment, soigné. Enfin, si je suis, protégé du virus.
Donc, par exemple, pour un journaliste, il faut mieux qu'il sache plutôt qu'il croit.
Oui, tout à fait.
C'est à mon avis, c'est plus rigoureux de savoir que de croire. D'ailleurs, dans les rédactions, c'est ce qu'on pourrait dire. Tu crois ou tu sais ? Tu vois, c'est pas la même chose. Voilà. Tu crois ou tu sais ?
Exactement. Bah, la recherche de l'information aussi fait que, justement, on est obligé de savoir et non de croire uniquement.
Bah, y a une exigence dans le mot savoir qu'il y a moins dans le mot croire. Parce que je peux croire, par exemple, que l'équipe de France est la plus forte du monde. Bon, voilà. Il y a un côté magique dans la croyance.
Moi, je peux rebondir là-dessus en disant que bon, il y a le fameux débat, on va dire, entre nos deux attaquants vedettes, on va dire, mais on ne sait pas lequel des deux pourrait être le meilleur.
Est-ce que vous croyez que Olivier Bois est déjà dans ce studio, Julien ?
Oui, sûrement, oui.
Parce que moi, je sais qu'il est déjà là. Donc c'est ça la différence. Vous dites sûrement, et moi je sais, parce qu'il est en face de moi. Alors il venait avec un maillot de football, c'est très étrange maintenant.
Quel philosophe.
Les jeunes travaillent avec des maillots de football.
Je ne suis pas jeune, Pascal.
Ah bon, bah alors c'est des vieux, mais c'est très étrange. C'est un maillot de quoi ?
C'est un maillot du Cameroun.
Et vous travaillez avec un maillot de football ?
Ah ben oui, écoutez, c'est la radio, je suis pas obligé
de... Non mais c'est étrange de travailler avec un maillot de football, mais ça vous va très bien. Bon, merci Julien, en tout cas, vraiment merci. Vous habitez dans la Manche et c'était très intéressant ce petit débat sur la croyance et le savoir.
Je voulais juste rajouter un tout petit truc.
Oui.
Je voulais juste vous remercier, en tout cas, des débats que vous apportez tous les jours. Et je voulais dire bonjour à mon fils Eden qui a 8 ans et qui est un très grand fan de la radio RTL.
Il s'appelle comment ?
Eden.
Eden. Bah écoutez, voilà. D'abord c'est un joli prénom et il n'est pas commun, donc bravo et on
Eden
salue.
Hazard.
Comment ?
Comme Eden Hazard.
Eden Hazard.
Eh bien on lui offre une montre.
Eh bien comme ça, vous croyez ?
Je sais qu'on lui offre une montre.
Bon. Vous décidez de ça aussi, Grégory ?
Je décide, oui. Décide.
Bon, là, on est en train de prendre du retard, ce qui est quasiment 14h, on devrait être en flash déjà. À tout de suite.
Les auditeurs ont la parole.
Pascal Pro sur RTL.
Il est 14h. Il a eu 19 sur 20 au bac en philo. Olivier Bois pour le flash.
Et une journée très politique aujourd'hui, à 3 jours du premier tour des régionales. Emmanuel Macron est en Picardie, mais il le jure, il n'interfère pas dans la campagne. Alors que Xavier Bertrand, précisément candidat à la présidence de la région Hauts-de-France, a ironisé ce matin sur la levée du masque obligatoire à l'extérieur, qu'il a qualifié de cadeau avant l'élection. Olivier Véran demande au personnel soignant des EHPAD de se faire vacciner. Ils sont moins de 60% alors qu'il est à l'avoir fait. Ce n'est pas justifiable, selon lui. Et il prévient, si ça ne change pas, le gouvernement pourrait envisager la vaccination obligatoire à la rentrée pour ses personnels. Le ministre de la Santé, par ailleurs, qui ouvre la porte au patron de discothèque pour une ouverture éventuellement cet été avec un protocole sanitaire adapté. Il a dit ce matin que le travail en ce sens allait commencer. Les professionnels du monde de la nuit sont reçus lundi. Un drame dans la base nautique de Saint-Jean-le-Blanc dans le Loiret. Un enfant de 6 ans est mort hier soir noyé. Il avait échappé à la surveillance de ses parents. L'alerte à la pollution à l'ozone est levée dans les Bouches du Rhône. Depuis dimanche, en raison des fortes chaleurs, le département était donc en alerte pollution, ce qui avait notamment entraîné l'abaissement de la vitesse de circulation de 20 km par heure. Raphaël Nadal renonce à participer à Wimbledon et aux Jeux Olympiques de Tokyo, c'est ce qu'il annonce à l'instant sur les réseaux sociaux. Et puis le football, l'Euro aujourd'hui, voici le programme, 15h Ukraine-Macédoine du Nord, 18h Danemark-Belgique, 21h Pays-Bas-Autriche.
Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Merci Monsieur Bois. Et c'est vrai que votre copie de bac est parmi les meilleures.
Non, elle était très médiocre.
Depuis un siècle.
J'en garde un souvenir douloureux.
L'éducation nationale l'a gardée dans ses archives. Evelyne est là. Bonjour Evelyne.
Oui, bonjour Pascal.
Est-ce que vous avez le bac, Evelyne ?
Eh bien non, malheureusement. Moi, j'ai quitté l'école, j'avais 15 ans.
Bah oui, vous êtes d'une génération où c'était parfois plus rare. Surtout, et là, c'est ça, faut le dire, lorsqu'on était une jeune femme, parfois. On était, à l'époque, les garçons n'étaient pas traités comme les filles. Et parfois, les filles, on les sortait de l'école à 15 ans, 16 ans, pour être secrétaire, dactylo, que sais-je. Et on ne leur donnait pas la possibilité de faire le bac, de passer le bac. C'était incroyable, d'ailleurs, de penser ça.
En 1965, exactement, j'ai quitté l'école.
Et parfois, c'est une souffrance, parce qu'il y avait, je ne sais pas si c'était votre cas, mais il y avait des jeunes filles que j'ai rencontrées plus tard, quoi, des jeunes filles qui étaient même des femmes d'un certain âge, qui disaient j'avais toutes les possibilités de faire des études longues, et puis mes parents n'ont pas voulu.
Oui, c'est vrai. Et en plus, moi, j'étais excellente en dictée, grammaire. Et c'est vrai que chaque fois je remets, vous savez, maintenant les jeunes, systématiquement mes enfants, j'en ai trois, ils m'envoient des SMS. Oh, les fautes d'orthographe, je suis horrifiée. Non, j'étais très très bonne en français, oui, vraiment. Et rédaction, j'étais des rédactions magnifiques. Pas spécialement, parce que bon, moi, à l'âge de 18 ans, j'ai commencé à travailler dans le tourisme, qui a été un merveilleux métier pendant pratiquement 50 ans. Non, je ne regrette pas d'avoir quitté l'école. Non, ça n'a pas été dramatique pour moi.
Alors,
puis bon, n'importe comment, j'ai commencé à... En fait, j'ai travaillé parce que mes parents, ils étaient très pauvres. Mes parents étaient très pauvres. Et donc, le peu d'argent, j'ai travaillé comme bonne. Et le peu d'argent que j'avais, je donnais à mes parents. Voilà. Donc on était
50
enfants.
Mais ça aussi, c'était la règle à l'époque. C'est, ouais. Les gens ne comprennent pas, et les plus jeunes ne comprennent pas. Dans nos familles, on sait que les gens qui sont nés avant-guerre, lorsqu'ils ont commencé à bosser à 15 ans, 16 ans, 17 ans, ils donnaient toute leur paye à leurs parents.
Ah oui,
ce qui nous paraît absolument incroyable à nous.
Oui, ouais, complètement. Mais bon, j'ai pas de regrets à ce niveau-là. J'ai aidé mes parents et puis j'ai eu un métier magnifique. Donc j'ai pas de regrets.
Vous faisiez quoi?
Dans le tourisme. J'ai travaillé 50 ans dans une agence de voyage.
Ah ben ça, c'est sympa, effectivement. Donc, alors, les sujets du jour, parce que c'est pour ça que vous appelez.
Alors,
Quels sont les sujets que vous avez repérés?
Alors, Thomas, justement, je trouve que c'est un peu triste, parce que les sujets sont lourds. Discuter, est-ce renoncer à la violence? Ben oui, effectivement, il y en a qui discutent, et puis malheureusement, ils reçoivent quand même un coup de couteau, donc c'est très difficile. Ils ont une... Enfin, je trouve que les jeunes, là, depuis 2 ans, je les plains énormément. 17 ans, avoir connu pendant 2 ans le port du masque, les restrictions, le fait de travailler les sujets chez soi, devant un ordinateur. En plus, la plupart avaient des petits studios au 8e étage de bâtiments non chauffés. Enfin, je trouve qu'ils ont eu des sujets lourds, discuter, se renoncer à la violence. L'inconscient échappe-t-il à toute forme de connaissance?
Non, mais celui-là,
sommes-nous responsables de l'avenir?
Ah ben, sommes-nous responsables de l'avenir? C'est plus facile.
Voilà, je trouve que c'était parmi les trois sujets, je pense que j'aurais pris sommes-nous responsables de l'avenir.
Qu'est-ce que vous auriez dit?
Oui, bah bien sûr, n'importe comment, au niveau de la pollution, des plastiques, etc. C'est vrai que on est responsable de ce qui va y avoir dans quelques décennies. Massacrer les animaux, détruire les forêts, détruire notre écosystème. Oui, on est l'homme. Actuellement est responsable de son avenir. Alors complètement, entre la pollution, le massacre des animaux sauvages, qui a fait que malheureusement à cause de ça, eh ben les épidémies, il y en a de plus en plus, parce que les virus allaient surtout sur les animaux sauvages, et que maintenant, ben, vu qu'on les massacre à 70%, il n'y en a plus, et bien maintenant ça se retourne sur l'homme, et on est responsable effectivement de tout ça, de ces virus, de ce Covid, on est responsable, oui. J'aurais pris ce sujet. Avec
qui est effectivement plus facile. Alors, et puis, il y avait une autre manière peut-être de l'aborder également, c'est de dire, est-ce que nos prédécesseurs sont responsables du moment que nous vivons? C'est une manière d'y répondre, puisque si eux sont responsables de ce que nous vivons, bah, par définition, nous serons responsables aussi des 20 ou 30 prochaines années. Donc, c'est intéressant.
Ben là, en tant qu'adulte, on est responsable de l'avenir de nos enfants. Hein. Moi, j'ai quand même six petits enfants.
Ah, ça, il y a discussion. Est-ce qu'on est responsable de l'avenir de nos enfants? Il y a la marge de manœuvre après de l'enfant.
Oui, bien sûr. On n'est pas
responsable de tout non plus.
Non, bien sûr, absolument.
Ouais, et après, chaque enfant fait son chemin, parfois...
Alors nous savons, puisque savoir, est-ce ne rien croire, nous savons ce que nous avons fait, nous savons ce que nous faisons actuellement, et voilà.
Mais est-ce que nous savons vraiment ce que nous avons fait? Bonne question. Est-ce que nous ne leurrons pas, parfois, sur nous-mêmes? Est-ce que nous croyons savoir ce que nous avons fait?
Nous, on a eu les 30 glorieuses. Nous, on a surtout bien vécu cette période-là. Hein. C'est vrai que, comme vous, comme moi, on a été très, très, très gâtés. Ce qui n'est pas trop le cas.
Moi, je suis
quand
un enfant
de
des 30 glorieuses. Mais vous les avez effectivement partagées.
Ah,
merci en tout cas, Evelyne, de ce témoignage.
À
et
bientôt,
on va marquer
Pascal.
Une pause. Et c'est bien la philo. On devrait faire de la philo tous les jours, Greg.
C'est passionnant. Il n'y a pas un bruit en régie. Tout le monde écoute avec attention, plus que jamais presque.
Mais est-ce que nous savons vraiment ce que nous faisons?
Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien.
Ah oui, vous l'avez ça, cette chanson de Gabin? C'est une bonne philo, ça, finalement, philosophie
Socrate.
Dans la vie. Je sais que je ne sais rien.
En tout cas, ce que je sais par contre, c'est qu'on va faire une pub.
À tout de suite.
Pascal Praud, les auditeurs ont la parole sur RTL.
jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Faut-il rendre le vaccin obligatoire parfois pour les personnes fragiles et aussi pour les soignants? Parce qu'on découvre que les soignants ne sont pas tous vaccinés, ce qui nous étonne. Donc on est avec Nathalie qui est aide-soignante dans un EHPAD. Bonjour Nathalie.
Bonjour.
Est-ce que vous êtes vaccinée?
Non, je ne le ferai pas.
Mais c'est ça qui nous étonne, parce que vous êtes au contact de gens quand même extrêmement fragiles. Vous-même pouvez, par définition, leur transmettre la maladie. Vous êtes aide-soignante et j'arrive pas à exactement comprendre la position dans ces cas-là des soignants qui ne souhaitent pas être vaccinés.
Parce que c'est ma liberté de ne pas me de pas me faire vacciner. Et si on rend obligatoire les vaccins pour les soignants, donc qu'on rend aussi obligatoire les vaccins de toutes les personnes qui viennent visiter ces personnes en EHPAD.
Bah, c'est-à-dire que les soignants, ça fait partie du cahier des charges de votre job, pardonnez-moi de le dire comme ça. De la même manière, d'ailleurs, je crois que vous devez être vacciné contre l'hépatite B, c'est bien cela ?
Exactement.
Et là, vous l'êtes vacciné contre l'hépatite B ?
Oui.
Oui, parce que c'est obligatoire. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a des contraintes, comme dans tous les métiers, il y a parfois des avantages et des contraintes. Et effectivement, pour un soignant, si, alors je mets par exemple à une place de parent de quelqu'un qui est dans l'EHPAD. J'ai une grand-mère qui est dans l'EHPAD. Je sais que vous venez régulièrement. Je me dis, écoutez, je suis quand même très ennuyeux, parce que je me dis, vous voyez beaucoup de gens, plus beaucoup de gens un peu fragiles, vous pouvez contaminer ma grand-mère. Ou mon grand-père.
Je change mon masque toutes les 4 heures, je me lave les mains.
Non mais j'entends bien tout ce que vous dites, mais tout ça, ça ne me convaincra pas. Vous voyez, je vous dirais, Nathalie, vous pouvez mettre en danger ma grand-mère.
Je ne cherche pas à vous convaincre. Moi, ce qui m'interpelle aussi, c'est que le gouvernement s'inquiète des personnes âgées en EHPAD, puisqu'on n'est pas vacciné. Quand, au début de l'épidémie, le gouvernement ne s'inquiétait pas qu'on avait des lunettes de ski et des sacs de poubelles.
Et ce n'est pas parce qu'il a fait des erreurs au début que maintenant que les choses vont mieux. Pardonnez-moi, Nathalie, de le dire comme ça. Je ne trouve pas que ce soit non plus un argument. Alors, la vraie raison, vous, parce que vous avez peur du vaccin ? Vous pensez qu'il n'est pas fiable ?
C'est parce qu'on n'a pas de recul sur le vaccin.
Bah oui, mais alors, je suis d'accord, mais vous attendez combien de temps ? 10 ans ?
J'attendrai le temps que je sois décidée de me faire vacciner.
J'entends bien, mais si tout le monde est comme vous... D'abord, c'est un argument qui s'entend, il n'y a pas de recul, parce qu'il est factuel. Vous avez raison, il n'y a pas de recul, il est en place depuis un an. Mais si tout le monde est comme vous... Et puis, j'aime pas ce rôle-là, parce que j'ai l'impression de vous donner une leçon, et vraiment, je trouve que c'est désagréable. J'ai pas envie d'être dans ce rôle-là. Mais en même temps, si tout le monde est comme vous parmi les soignants... autant je peux comprendre quelqu'un qui me dit entre 12 et 18 ans, bon, je peux le comprendre. Même quelqu'un qui est en pleine forme de 35 ans, je peux le comprendre, etc. Même si il y a des arguments, bien sûr, qui militent pour la vaccination. Mais vous êtes soignant. Donc, trouve que ça fait partie des contraintes auxquelles, hélas, vous devez, ou pas d'ailleurs, vous devez vous soumettre.
Non, de toute façon, il y aura un gros problème, puisque si le gouvernement nous impose les vaccins, donc moi, je démissionnerai de mon travail.
Mais vous ferez quoi ?
J'irai faire autre chose, j'irai travailler.
Bah, c'est triste quand même, à ce point-là.
Non, parce que c'est mon corps, et j'ai décidé ce que je veux faire, ce que je veux avec mon corps. Le problème, c'est que je ne suis pas la seule soignante dans ce contexte, et si les soignants démissionnent, parce que si on nous impose le vaccin et qu'on démissionne, il y a un manque de personnel dans les EHPAD, je ne sais pas si vous êtes au courant, hein, parce que le gouvernement, à mon avis, n'est pas du tout au courant qu'il y a un manque de personnel, donc il y aura encore peu moins de personnel.
Non, mais c'est un sujet délicat. Moi, on est partagé en fait, parce qu'en même temps, la liberté individuelle, bien sûr, elle existe et c'est votre liberté. Et en même temps, vous êtes au contact de gens fragiles. Donc, c'est faut pouvoir trancher ce débat. Et parfois, on a des idées.
On n'a pas à nous imposer. Ça m'interpelle tout le temps, puisque bon, ça fait 31 ans que je fais soignante, qu'on s'occupe de la personne âgée. Alors là, on considère la personne âgée en EHPAD. Là, le gouvernement nous le fait au moment de Noël, hein, pour pas qu'il passe leur Noël tout seul, et l'été, pour pas qu'il soit déshydraté. À part ça, le gouvernement s'occupe pas trop de ce qui se passe dans les EHPAD. Hein. On voit jamais quelqu'un venir nous voir dans les EHPAD. Hein. Donc là, je suis un petit peu étonnée qu'on a un ministre de la Santé qui ne sait pas sur quel pied danser, nous imposer le vaccin. C'est tout, point à la ligne.
Bah, écoutez, merci.
Il y a plus de 50% de soignants qui ne veulent pas se faire vacciner. C'est parce qu'il y a peut-être des questions aussi à se poser.
Bah, en tout cas, ça interpelle. Là. C'est vrai que vous avez raison, parce qu'on se dit...
Les soignants, ils sont quand même aux premières loges. S'ils n'ont pas envie de se faire vacciner, peut-être ont-ils des raisons. Donc, effectivement, ça peut inquiéter, disons-le, que vous ne vous fassiez pas vacciner. Mais en tout cas, le débat qu'on a eu, ben, je ne sais pas comment le trancher. Donc, les auditeurs, peut-être, ont un avis. Ils le donneront peut-être encore.
En tout cas, il est tranché pour moi.
Ben, merci en tout cas, Nathalie, de votre franchise. Et ça, ce qui est intéressant dans cette émission, c'est d'exprimer clairement son avis. Merci. Il nous reste quelques minutes. Beaucoup. On va peut-être évoquer Coluche, figurez-vous. À tout de suite.
Les auditeurs ont la parole.
Pascal Pro sur RTL. Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Il nous reste quelques minutes peut-être pour évoquer Coluche. Bonjour Nicolas.
Bonjour Monsieur Pro. Non, oui. Je dis Pascal.
Vous vous souvenez, Nicolas, de Coluche, sans doute?
Ouais, j'ai 56 ans. Mmh. Et Coluche, sur quel sujet on peut l'aborder? Sur le sujet de la moto. Moi, j'étais motard déjà à l'époque. Je suis toujours motard. Malheureusement, c'est ce qui l'a emmené. Parce que ben, il était comme nous tous, peut-être des fois des coups de folie sur la route. Voilà, on va commencer par le plus triste.
Mais encore?
Mais encore, le roi au cinéma, le roi en comique. J'ai sous les yeux un livre qui résume sa carrière de cinéma, de chanteur. C'est un article que j'ai trouvé à un journal trimestriel qui s'appelle Légende. Le numéro 3 lui était consacré. Quand on voit les citations qu'il citait à l'époque et ce qu'on voit maintenant, il paraît que la crise rend les riches plus riches et les pauvres plus pauvres. Je ne vois pas en quoi c'est une crise. Depuis que je suis tout petit, c'est comme ça.
Alors,
il y a quand même
cinéma.
Moins d'étrangers que de racistes en France. Je voudrais rassurer les peuples qui meurent de faim. Tout le monde, dans le monde ici, on mange pour vous. Et si j'ai l'occasion, j'aimerais mieux mourir de mon vivant. Voilà, je vous en cite 4. Il était génial. Et s'il parlait de tout ce qu'il a parlé à l'époque maintenant, ben, il se ferait certainement ovationné, mais aussi lynché. Mais je pense qu'il en remettrait une couche s'il se faisait lyncher. Et il en remettrait une couche s'il se faisait encore lyncher. Voilà.
Alors, il y a plusieurs Coluches, mais il y a le Coluche qui est très présent dans la société médiatique. Le Coluche qui intervient au César un soir par hasard. Le Coluche qui fait le jeu de la vérité avec Patrick Sabatier. Le Coluche qui se marie avec Thierry Leluron. Le Coluche qui fait les Restos du cœur. Vous voyez, c'est pas que le Coluche des sketchs. Et puis, vous avez parlé de cinéma. Moi, je trouve qu'il y a deux films dans lesquels il est formidable. C'est L'inspecteur La Bavure.
La Bavure.
Il est formidable de tendresse, de jeunesse aussi, et Ciao Pantin. Mais c'est L'inspecteur La Bavure avec Depardieu, qui doit être un film peut-être de Claude Zidi, me semble-t-il. Et puis le film de Claude Berry, où il avait eu un César pour Ciao Pantin avec Richard Anconina, Agnès Soral. C'est un excellent film. Moi, je l'ai revu il n'y a pas très longtemps.
D'école.
Il est formidable.
Le maître d'école, il faut le voir comment il aborde les enfants. Avec
et c'est très bien. Il est très bon là-dedans. Ouais. Et L'aile ou la cuisse aussi, il est formidable.
L'aile ou la cuisse dans quelque chose de plus léger.
Oui, exactement. Avec une scène
qui a bousculé un petit peu les politiques à un moment.
Bien sûr.
Il ne faut pas l'oublier.
Dans L'aile ou la cuisse, où il dit « C'est le président de la République !» Et puis il est en train de lancer un saut, et puis c'est son père, Louis de Funès.
Et c'était un recordman du monde de vitesse. Il ne faut pas l'oublier. Hein.
La musique de L'aile ou la cuisse. Merci Nicolas.
Bravo derrière.
Vraiment merci.
Bonne journée, au plaisir. Ciao.
Le débrief de Laurent Tessier.
13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL. C'est l'heure du débrief de l'émission par Laurent Tessier.
Êtes-vous satisfait de la fin de l'obligation du port du masque à l'extérieur? C'est le cas de Sébastien. Il ne comprend pas la réaction de certains.
Ben, j'entendais tout le monde dans mon entourage, jeune ou moins jeune. On en a marre de ce masque, on est pris en otage, on est infantilisé, tout. Là, on nous annonce depuis hier, c'est bon, pas les masques. Et je vois du monde dans les rues, ils ont encore. J'avais envie de leur dire, je dis, vous êtes au courant, vous n'avez pas la télé, la radio, c'est bon. Vous pouvez, on est libérés, quoi.
Mais tout le monde ne fait pas la fête, comme Franck.
Moi, personne ne m'empêchera de continuer à le porter tant que je jugerai que la situation n'est pas sous contrôle. Pour moi, c'est prématuré de l'enlever.
Mais sinon, qu'avez-vous vu depuis ce matin, Pascal?
Tout, vous saurez tout sur le zizi.
On a des ouverts, des fermés, des pensifs, des renfrognés, des rigolos, des distingués, des abîmés, des barbus, des maquillés,
des
boutonneux,
des visages,
des ensoleillés, des blafards, des romantiques.
Ah, j'avais pas compris, mais est-ce que vous avez aimé?
Eh ben, j'étais drôlement content.
Je vous en prie. Allez, c'est le jour du bac général et technologique. Parlons de la célèbre épreuve de philosophie.
Sommes-nous responsables de l'avenir? Voyez le beau sujet que c'est. On est responsable en tout cas de la fin du flash. Si on parle longtemps,
vous et Dieu sait retard. Que tous les jours vous mettez en retard.
Alors forcément, la pensée du jour d'ami Pascal.
C'est quoi l'inconscient? L'inconscient, cher ami, c'est ce qui n'est pas conscient.
Oui, tout à fait. On a compris. Battle de pensée philosophique. Tiens, avec Jean-Claude Van Damme.
Dans notre monde à nous, 1 plus 1 égale 2. 2 plus 2 égale 4. Comme ça, on devient selfish, on prend du pognon et on partage pas. Mais c'est 1 plus 1 égale 1. Ou peut-être que 1 plus 1 égale 11.
Oui, c'est plutôt clair. Une réaction, Pascal?
C'est Laurent...
Oh là là, baissez la clim. Qu'est-ce qu'il y a, Jean-Claude?
C'est Laurent...
Faut que tu te mouches. Tu vas mouchoir?
Mais oui, voilà, l'avis de Jean-Claude Van Damme. Il fait encore chaud aujourd'hui. Un programme, Christelle Robière?
On enlève le haut.
Bon, je vous en prie, un programme pour ce soir aussi, Pascal?
Un petit frottis nasal. Je le fais régulièrement.
Voilà. Eh ben, allez-y, allez, fin de l'obligation du port du masque à l'extérieur. Quelle est la nouvelle formule de politesse, Bruno?
Et bon sourire.
Bon, bah oui.
Voilà, bon sourire à tous. Et le débrief pour aujourd'hui, c'est terminé. On se quitte avec la chanson de la fin du port du masque à l'extérieur.
Ah, vous la mettez à toutes les sauces, cette chanson.
On l'adore.
14h26, Flavie Flamand dans une seconde.
C'est dommage, on avait le temps de profiter de la chanson encore un peu. Vous chantez pas là, hein, c'est marrant.
C'est pas ma génération.
Non plus.
Moi, ma playlist s'est arrêtée en 78, je vous l'ai déjà dit. D'ailleurs, on n'a pas passé notre célèbre chanson, on la passera demain. À tout de suite.
Jusqu'à 14h30.